RFI, les midis à Paris, 10h en temps universel. Et tout de suite, le journal avec vous, Karine Bellicha, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. À la une, à Los Angeles, la mobilisation continue contre les raids de la police fédérale de l'immigration et le déploiement de Marines décidé par Donald Trump. Un couvre-feu nocturne a été instauré par la maire démocrate de la ville. L'aide alimentaire est largement insuffisante à Gaza. Elle est gérée désormais par une nouvelle organisation inexpérimentée, soutenue par les États-Unis. Et chaque jour, des incidents meurtriers sont signalés. La défense civile annonce la mort de 31 Palestiniens. L'armée israélienne parle de tirs de sommation. L'appel de Nice contre la pollution plastique a été signé hier par 95 pays. C'est positif, mais pas suffisant, nous expliquera Pauline Anglaise, envoyée spéciale au sommet de l'ONU sur l'océan. À Los Angeles, la maire a imposé un couvre-feu nocturne dans le centre-ville. 25 personnes ont été interpellées, indique la police, même si la nuit dernière a été plutôt calme. Depuis vendredi dernier, des heurts opposent les forces de l'ordre à des protestataires dénonçant les raids de la police fédérale de l'immigration contre des clandestins. Loïc Piala est allé à la rencontre des manifestants dans les rues de Los Angeles, bien décidé à faire entendre leur voix. Reportage.
À l'heure du déjeuner, un hélicoptère survole Downtown, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Des agents de nettoyage s'occupent des nombreux graffitis sur les murs du centre-ville. Les manifestants sont peu nombreux. Assis sur les marches de la mairie, à quelques mètres des shérifs qui protègent le bâtiment, Mark Hartnett tient une pancarte.
Vétéran contre le fascisme.
Mark est un ancien sergent de l'US Air Force, furieux que Donald Trump déploie des Marines.
C'est une insulte pour Los Angeles et pour les militaires. En tant que vétéran, je me dois de m'exprimer. Je veux que ces Marines voient que ce n'est pas normal d'être ici, qu'ils n'ont pas à suivre des ordres illégaux. Ce n'est pas pour ça que je me suis battu quand j'étais engagé.
Mo, le visage caché derrière un masque, s'est déplacé pour la première fois depuis le début des manifestations.
Je suis là pour protéger mes voisins. Je suis très fier de Los Angeles, qui s'est organisé pacifiquement et s'est dressé contre la peur. Je suis un citoyen américain et je sens que j'ai une responsabilité. Mieux vaut que la police m'arrête moi plutôt que quelqu'un qui n'est pas un citoyen.
La tension monte un peu plus tard, dans l'après-midi. La police force les manifestants à s'éloigner du centre de détention. Le face-à-face dure jusqu'à ce que plusieurs centaines de personnes tentent d'occuper l'autoroute. Mais les forces de l'ordre réagissent très vite et en nombre. Après une vingtaine de minutes, les manifestants sont chassés par des agents en tenue anti-émeute. Ils rejoignent les rues de Downtown. Ceux qui s'attardent près de l'autoroute sont arrêtés. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Et le bras de fer politique continue. Le gouverneur démocrate de Californie entend contester en justice la décision de Donald Trump de déployer l'armée dans son État. Gavin Newsom a dénoncé une nouvelle fois hier soir un abus de pouvoir éhonté. À Gaza, affamés, des Palestiniens ont tenté d'entrer dans un centre de distribution de colis alimentaires et le bilan est lourd. La défense civile dénombre 31 morts et 200 blessés. L'armée israélienne parle de tirs de sommation. Les incidents meurtriers se multiplient depuis fin mai et le système de soins est aussi au bord de la rupture. Les quelques hôpitaux encore opérationnels dans l'enclave ont du mal à faire face à l'afflux continue des blessés. Témoignage à Gaza, recueilli de Jérusalem par Sami Bourrelifa.
Cette jeune Gazaoui témoigne anonymement depuis l'hôpital de campagne britannique situé dans le sud de la bande de Gaza. Elle est au chevet de son frère grièvement blessé par des tirs de l'armée israélienne alors qu'il tentait d'obtenir un colis d'aide alimentaire.
Il a reçu 2 balles explosives au ventre et à l'avant-bras. La blessure au ventre a été soignée, mais celle de l'avant-bras est compliquée. Plusieurs tendons fléchisseurs des doigts ont été sectionnés et les chirurgiens ont été obligés de suturer 3 tendons sur un seul qui était encore sain.
De la médecine de guerre avec les moyens du bord. Pour le moment, le jeune homme a perdu l'usage de sa main droite.
Mon frère est droitier. On espère vraiment réussir à l'évacuer pour le faire soigner à l'étranger. Les hôpitaux d'ici ne peuvent rien pour lui. Je ne blâme pas les médecins, ils ont fait l'impossible pour sauver sa main. Mais c'est un hôpital de campagne, sous des tentes. Ils ne peuvent pas soigner plus de 20 ou 30 personnes par jour.
Et depuis fin mai, Le nombre de morts et de blessés par balles suite à des tirs israéliens explose à Gaza, raconte la jeune fille.
Ce sont des massacres gratuits, quotidiens. La majorité des victimes ont été tuées ou blessées devant les centres de distribution d'aide. Mon frère a 3 enfants, il voulait juste leur trouver à manger. C'est pas une tête brûlée.
Depuis fin mai, c'est une entreprise soutenue par Israël qui gère la distribution de nourriture à Gaza. Sa sécurité est gérée par des sociétés américaines privées employant d'anciens soldats. Le tout sous le contrôle de l'armée israélienne, provoquant un chaos dénoncé par l'ONU. Sami Bourfa, Jérusalem. RFI.
Les militants pro-palestiniens, dont 4 Français encore détenus en Israël, sont considérés comme des immigrés illégaux. Précision de l'ambassadeur israélien à Paris, après l'arraisonnement de leur bateau au large de Gaza, ils sont actuellement dans un centre de détention. Le but est de les mettre dans un avion vers la France le plus rapidement possible, après avoir été présentés à un juge, précise le diplomate. Le deuil national commence pour 3 jours en Autriche, dans un pays jusqu'ici épargné par la violence. Une bombe artisanale non fonctionnelle a été découverte lors d'une perquisition au domicile du tueur, un ancien élève de 21 ans qui a tué 9 personnes dans un établissement scolaire de Graz. Il s'est ensuite suicidé. En France, 1 minute de silence sera observée dans tous les établissements scolaires demain. Hommage à la surveillante tuée par un collégien hier à Nogent dans le nord-est du pays. Le Premier ministre François Bayrou souhaite l'expérimentation de portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. L'exécutif a également décidé d'interdire la vente de couteaux aux mineurs. Charlotte Urien-Tomaca.
Les 2 têtes de l'exécutif à l'unisson, quelques heures après le drame. En marge du sommet des océans, le chef de l'État annonce que les règles vont être durcies.
On va intensifier les contrôles, mais surtout renforcer les interdictions. Mais ça veut dire qu'on va durcir les règles, ça veut dire qu'on va mettre des sanctions massives financières, des interdictions. On ne pourra plus vendre ces armes blanches.
Quelques minutes avant, sur le plateau de TF1, c'est François Bayrou qui l'annonce et la mesure sera immédiate.
L'élargissement de la liste des armes blanches, des couteaux, c'est tout de suite, c'est possible en 2025, notamment de l'acheter sur Internet, et c'est ce à quoi nous allons mettre un terme.
Pour le chef de l'État, les réseaux sociaux sont également responsables, il faut les réguler.
Moi je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, et donc je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne, sinon négocier avec les Européens pour que nous on commence à le faire en France. On peut pas attendre.
Plus largement, Emmanuel Macron a appelé, je cite, à ne pas céder aux manipulations dans le débat politique, après qu'il a été vivement critiqué pour s'en être pris, je cite, à ceux qui préfèrent brainwasher sur les derniers faits divers.
La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan se poursuit à Nice, dans le sud-est de la France. L'une des maladies dont souffre l'océan, c'est la pollution plastique. Et à quelques mois d'un nouveau round de négociations en août à Genève, le sommet est aussi l'occasion de préparer ce rendez-vous. Un appel de Nice pour un traité plastique ambitieux a été lancé hier par 95 pays, plus de la moitié des 170 pays impliqués depuis 2022 dans la négociation sur ce dossier. Pauline Glaise.
Privilégier l'éco-conception, supprimer les composants dangereux des plastiques et surtout en réduire la production, voilà quelques-uns des principes clés de cet appel de Nice. Or, la réduction des déchets est une pierre d'achoppement des négociations plastiques. Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la transition écologique.
Un certain nombre de pays essayent de nous faire croire que c'est en agissant sur la collecte, le tri et le recyclage que nous allons mettre un terme à la pollution plastique. Ceci est un mensonge.
Parmi les signataires, la RDC, la ministre Eve Bazaïba, s'est notamment inquiétée des effets des microplastiques que nous ingérons et respirons.
C'est un fléau qui nous préoccupe au plus haut point. Le revers de l'utilisation de ces plastiques, c'est la pollution qui déstabilise nos familles, la pollution qui déstabilise nos vies.
Les signataires sont dans l'ensemble ceux qui défendaient la réduction de la production lors des négociations de Busan en Corée du Sud. Lauriane Trimoula de la Fondation Gallifrey savoure tout de même une victoire.
Il reste des pays visiblement hésitants, il en reste un certain nombre, et de voir que les pionniers sont toujours là, il y a un effet domino qui peut se produire. Et c'est là-dessus que l'on compte.
Une autre ONG salue l'inscription du principe pollueur-payeur dans cet appel de Nice. Pauline Glaise, Nice, RFI.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, place à 8 milliards de voisins avec vous, Laurence Garcia. Bonjour.
Bonjour et merci Karine Bédicha. Le prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 13h, heure de Paris. Merci à vous.